13h30 sur France Inter, la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire Servageant.
Je ne vous demande pas si vous avez fait votre service.
Non, parce que c'est un peu intime.
Ah, bon,
je ne suis pas très fier,
donc je retire ma question.
Oui. On va parler du service civique à la conférence de presse de François Hollande le 5 février. Et nous, nous allons revenir sur le bon vieux service.
On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
Le service militaire.
Mes chers compatriotes, je vous ai fait part de ma décision de professionnaliser l'ensemble de nos forces de défense. En effet, la conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne. Cette décision a naturellement des conséquences directes sur le devenir de notre service national.
Quand Jacques Chirac, il y a 20 ans, prend la décision de suspendre le service national, celui-ci, depuis 1965, avait souvent d'autres formes que le service militaire. L'intention affichée alors était d'ailleurs de ne pas les abandonner, ces formes civiles, et de leur trouver un nouveau nom. En 2010, ce sera le service civique. En 1995, l'opinion, en même temps qu'elle soutenait le passage à l'armée de métier, souhaitait la généralisation du service civique. Et aujourd'hui, les Français sont encore plus nombreux à penser que les jeunes doivent, d'une manière ou d'une autre, reconnaître leur dette à la République. Sauf que le coût de l'organisation serait si lourd qu'il alourdirait singulièrement cette dette. 700 000 garçons et filles à gérer chaque année, et que leur faire faire ? Reviennent alors à notre mémoire des images mêlées. La caserne, non pas creuset du pays, mais lieu antidémocratique. En réalité, la France, qui se souvient du service comme instrument d'intégration, a rarement été à l'unisson quand il s'agissait d'en débattre ou de l'effectuer. Et il n'est pas étonnant qu'elle se divise de nouveau aujourd'hui quand il s'agit de proposer des solutions de remplacement.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Annick Crépin, bonjour.
Bonjour.
Annick Crépin qui a publié un très beau livre sur l'histoire de la conscription qu'on trouve en collection Folio chez Gallimard. Il y a quand même quelques malices à inviter une femme pour parler du sujet à la caserne, dont Claire Servageant m'a fait avouer que je ne l'ai pas beaucoup connue. Virilité et vulgarité pouvaient aller de pair.
Il n'y a plus dans la recherche historiographique de sujet réservé aux hommes, ni de sujet réservé aux femmes.
Voilà, et de la même manière, le service national, avant de disparaître, était pratiqué par des jeunes femmes volontaires, et le service civique d'aujourd'hui, à égalité évidemment, par les jeunes hommes et les jeunes filles qui circulent et défilent ensemble sur les Champs-Élysées depuis le 14 juillet dernier, l'initiative a été prise. Alors juste pour illustrer ce thème et en guise d'exergue à l'émission.
Quand je pense que bientôt il faudrait que je fasse mon service militaire.
Il n'y a pas d'urgence.
C'est pas toi qui devras te réveiller au son du clairon.
Non, c'est mon réveil m'a sonné assez tôt. Hein.
C'est pas toi qui devras défiler au pas de gymnastique.
Oh, vous devez bien courir, ta sœur et toi.
C'est pas pareil.
Allez, allez, gros bêtard.
C'est pas toi qui devras supporter les vexations d'un adjudant grotesque.
Il doit bien y avoir des adjudants convenables, non?
Sois pas naïf, ma petite maman, si les adjudants sont grotesques.
Oh, tourteron, d'où tiennent toutes ces sornettes?
C'est grand-père qui me l'a dit.
Oh, tu fais du souci beaucoup trop tôt.
C'est jamais trop tôt.
T'en fais des histoires. Moi, je voudrais bien être un garçon. Ils ont plus de chance.
Quoi?
Alors, la petite sœur de Tourteron, dans le téléfilm de Louis Gros-Pierre, c'est Tiffel. Et on l'entend, là, elle a les yeux pleins d'étoiles quand elle évoque, j'imagine, les soldats de l'an 2. Parce que les Français, ils ont mythifié les soldats qui se levaient en masse et marchaient tous ensemble à la fois.
En effet, la levée en masse est une levée de réquisitionnaires, de jeunes gens qui doivent partir, les jeunes gens de 18 à 25 ans. La conscription, c'est plus exactement la levée en masse, c'est une première forme, la première forme que les Français ont connue, la première forme de service militaire que les Français ont connu.
Avec volontariat, et vous insistez sur la réquisition. Et vous avez prononcé le grand mot. Alors, conscription. Conscription, ça n'apparaît qu'après. L'an 2, bien après, en 1798, la révolution finissante, elle est établie seulement à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est la conscription ?
La conscription, c'est l'inscription obligatoire de tous les jeunes gens de 20 à 25 ans sur des registres. C'est donc cette inscription qui est obligatoire, ce n'est pas le fait d'aller en personne servir sous les drapeaux.
Alors il faut inquiéter là les auditeurs et les auditrices, la conscription existe toujours et elle s'est même étendue aux jeunes filles.
Exactement, puisque la conscription qui est devenue ensuite, sous la Troisième République, le service militaire personnel obligatoire, est intimement liée à l'histoire des Français, intimement liée à cette invention que la Révolution française a faite de la citoyenneté. Et par conséquent, on n'a pas osé, la loi de 1997 n'a pas osé dire que la conscription était abolie, que le service militaire était aboli.
Ah mais c'est deux mots différents. Alors maintenant, je tiens à rassurer les jeunes auditeurs et les jeunes auditrices. Il y a pu y avoir conscription très longtemps, de 1798 au lendemain de la guerre de 1870, sans service militaire personnel obligatoire.
Tout à fait. Il y avait un tirage au sort et ceux qui tiraient un bon numéro étaient dispensés de tout effort militaire, de tout devoir militaire, voire de toute instruction militaire. Ce qui pose le problème, pendant tout le XIXe siècle, de l'existence d'une réserve efficace.
Mais attendez, sous l'Empire, il n'y avait pas de système de service militaire personnel obligatoire. Heureusement qu'il y avait des Belges, des gens des pays conquis.
Même sous l'Empire, il y a un tirage au sort et ce n'est jamais la totalité d'une classe qui part sous les drapeaux. On distingue donc le contingent, c'est-à-dire ceux qui partent vraiment, des conscrits de la classe.
Je voulais vous faire dire que les Belges partaient plus facilement que certains Français. Parce que à cette époque-là, on voit bien déjà se dessiner, avec le système du remplacement qui accompagne le système du tirage au sort, des zones de réticence, voire de résistance, et d'autres d'acceptation plus faciles.
Bien entendu, pour les Belges et aussi les Italiens, les Rhénans, voire les Hollandais, ils sont devenus membres de départements français annexés. Ils ont donc des préfets, des lycées, et ils sont soumis à conscription. Ce sont les grandes institutions que Napoléon a tirées, si je puis dire, de la...
Et ils manifestent plus d'enthousiasme parfois
certains,
que des gens de l'intérieur.
Certains Belges acceptent mieux, sinon plus d'enthousiasme, ils acceptent mieux que, par exemple, les départements montagneux du Massif central.
Oui, le Massif central, c'est la grande zone de résistance,
une
plus,
des
que
grandes
l'ouest.
Zones, ouais. Plus que l'Ouest. Ouais.
1872, c'est la première vraie loi, après donc la défaite de 1870, qui esquisse le service militaire personnel obligatoire.
Tout à fait, parce que il y a eu le traumatisme des défaites de 70 et aussi de la Commune. Et traumatisme qui est éprouvé devant un pays, la Prusse, qui a imité la conscription à la française, comme d'ailleurs la plupart des pays de l'Europe continentale au XIXe siècle, mais qui a fait une conscription plus égalitaire et qui semble paradoxalement, dans cette monarchie très autoritaire, plus proche des origines démocratiques de la conscription française.
C'est drôle parce que notre système est très lacunaire et c'est lui qui sert pourtant de modèle. Alors, 1872, 1889, 1905, l'égalité peu à peu va s'établir et tous vont être conscrits. Alors le mot conscrit sous la Troisième République à son zénith, fin du XIXe siècle, ça veut dire les gens, les hommes, les jeunes hommes d'une classe d'âge. Et on a l'impression que parfois cette classe d'âge dépasse un peu les classes sociales.
D'une certaine façon, parce que les jeunes gens se retrouvent, se côtoient dans la caserne, alors qu'ils sont d'origine géographique, culturelle, social différent.
Mais même avant la caserne, on se souvient des photos où voisinent les casquettes et les chapeaux, c'est le grand rite d'initiation. Avant le départ, au moment où on se retrouve de la même classe d'âge dans le village.
Les opérations de la conscription et surtout le passage devant le conseil de révision donnent lieu à tout un rituel qui est d'ailleurs créé par les jeunes gens eux-mêmes, qui n'est pas du tout imposé par les autorités. Et c'est un rituel que les anthropologues disent comparable à ce qui se passe dans d'autres civilisations. Un rituel d'initiation.
C'est drôle d'entendre une femme dire ça, d'autant que il y a eu des conscrites, c'est-à-dire que dans certains villages s'organisaient les jeunes filles en classe d'âge, comme leurs compères, les garçons.
Le village se lève tard. À l'exception cependant des conscrits de l'année, qui préparent le char sur lequel les musiciens accompagneront cet après-midi la promenade de Bino.
Allez, on y va.
Alors les enfants, vous partez contents, vous allez voir du pays.
Oui, oui, on est très contents. À votre bonne santé, monsieur, et à celle de mademoiselle.
Oh, tu n'as pas besoin de m'appeler mademoiselle.
Dans quelle garnison allez-vous?
À Toulouse, dans l'artillerie.
Moi, dans les chasseurs à Bayonne.
Et toi, Julo?
Moi, je vais dans les chasseurs en bas à la ville.
Ah, bah tant mieux. Comme ça, tu ne seras pas trop loin de chez toi.
Ah, et puis j'ai de la famille. Je les connais pas, hein? Mon père qui m'a dit...
Il y a Pierrot, il dit qu'il veut faire ordonnance.
Tu ne veux pas porter de fusil?
Non, il dit que c'est parce qu'il ne cause pas assez bien le français. Sacré Pierrot.
Ah, Julo, ce boscarard.
Vous avez de la chance. Moi, je vais mettre celle-là.
Comme un cantinière.
Oh non, je serai au moins caporal. Et je vous ferai valser.
Le téléfilm de Roger Lénard qui se passe dans le Béarn, avec toujours des jeunes filles qui sont anxieuses de partager l'expérience des jeunes gens. Il faut dire qu'on mange mieux à la caserne que dans le commun de la France, peut-être. Qu'on dort mieux, enfin qu'on a de meilleures conditions de coucher.
Au 19e siècle et je dirais au-delà de la guerre de 14, les conditions à la caserne, les conditions d'alimentation et aussi... parfois d'hygiène sont meilleures. C'est à la caserne qu'on fait des campagnes de vaccination pour les conscrits.
Mais ça, on peut présenter la caserne comme une seconde école, je veux bien. Et les hommes en uniforme, ils portent la livrée des hautes préoccupations. Ça, c'est Maurice Barrès qui disait ça avant la guerre de 1914. En même temps, il y a toutes sortes de représentations qui doivent être justes, qui présentent la caserne comme le lieu de l'abandon de soi, de la servilité à la hiérarchie, des corvées, de l'imbécilité. C'est comme l'envers de la vie démocratique civile.
Les deux aspects sont exacts. Il y a la volonté de faire de la caserne un lieu de républicanisation, sous la Troisième République, mais de démocratisation, un lieu de socialisation et même de civilisation, d'intégration nationale, en particulier pour les ruraux de l'Ouest et du Sud, du Midi, qui ont été longtemps réticents à l'unité nationale. Mais il y a aussi les réalités, une discipline que l'on veut être celle des citoyens libres de la Troisième République, mais qui est souvent bête et abrutissante, des dérives venant des gradés, en particulier des sous-officiers, de l'alcoolisme, il faut le dire aussi. Et les deux sont vrais.
Et l'extrême droite, Drummond dit, il rentre de la caserne civilisé et pas civilisé. Mais je voudrais vous faire parler de la gauche plutôt. Jean Jaurès, L'Armée Nouvelle, 1910, un grand livre, dit « En France, c'est drôle, on fait sa première communion pour en finir avec la religion, on se marie pour en finir avec l'amour, et on a l'impression qu'on s'encaserne pendant 2 ans, certains nous proposent 3 ans pour en finir avec le savoir militaire, alors qu'il faudrait... un temps plus court et des réserves plus riches après, tout au long de la vie.
Jaurès fait partie de ces courants de gauche qui ont toujours à l'esprit, c'est vrai d'ailleurs aussi pour des radicaux comme Clémenceau, l'idéal de l'armée de l'an 2, l'armée de citoyens-soldats, et qui veulent que l'organisation militaire de l'armée présente, de l'armée de la Troisième République, soit la plus proche possible. Pour Jaurès, les 2 ans de la loi de 1905 sont une bonne chose, il les a votés, parce qu'il pense que ce n'est pas le service militaire seul qui compte, dans une caserne, donc loin de la société civile, mais que c'est la société civile elle-même, les hommes, qui doivent être entraînés en tant que citoyens-soldats tout au long de leur vie. Donc il propose que les exercices commencent pour les garçons à l'âge de 10 ans et se prolongent ensuite, je crois que c'est jusqu'à une bonne quarantaine.
Oui, parce que c'est pas le pacifiste qui est présenté dans Wikipédia, Jean Jaurès. Il s'intéresse beaucoup à la chose militaire, à l'histoire militaire. Néanmoins, quand en 1913, 3 ans après l'armée nouvelle et 8 ans seulement après la loi que vous citiez, on propose de passer de 2 ans à 3 ans, alors il est radicalement contre. Pourquoi ?
Parce que tout allongement de la durée du service lui paraît, et il n'est pas seul à le craindre, un retour à une armée de métier qui est un vieux fantasme des Français, de toute obédience d'ailleurs, car pour les Français, étant donné ce qu'est leur histoire, l'armée de métier, c'est l'armée de la monarchie absolue.
Et la vie de caserne, une école de la discipline mal consentie. On va entendre une chanson de 1914, juste après la loi de 3 ans. C'est un succès de Bach, mais je vous prie de prendre garde à la jeune voix que vous allez entendre juste avant. C'est tout simplement, à ses débuts, dans le film de Linhart, Jacques Higelin.
Dis donc, si on les mettait ?
On les consignait.
Oh, il n'y aura jamais de contre-appel. Il n'y a qu'à faire le mur derrière les écuries.
Bah ouais, mais où aller ?
Tous les bistrots sont moches et comme fille, il n'y a rien que des putains.
Remarque, j'ai de la famille ici. Des cousins à mon paternel.
Bah...
Oh ouais, mais ça doit être des vieux.
Bah des vieux, ça leur fera toujours plaisir d'avoir des militaires.
Et ils nous offriront toujours un coup à boire. Allez, on y va ?
On y va.
Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans, mon cousin me dit, il y a le fils Bidas qui va dans le même régiment. Tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Bidas est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, elle est brave, valente devant les monuments. Dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. On va souvent voir les gorilles au jardin des plantes, c'est curieux. Devant la cage à la cocodrille, on va passer 1 heure ou 2. Devant les singes qui font la grimace, pour sûr on a des bons moments. Jusqu'à ce que le gardien passe, qui crie on ferme, allez-vous-en. Et comme on peut pas rester là, j'ai dit tu viens et on s'en va. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira sûrement ben au régiment, on a fait des orgies, on a bien passé le temps.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Annie Crépin, qui longtemps a enseigné à Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Une histoire de la conscription est disponible en format de poche que vous avez signé il y a quelques années. C'est chez Folio, on entendait Bach, qui va être un des créateurs au disque de la Madelon au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors si on s'attache justement à cette période... Verdun a refait Valmy, la validité du modèle a été vérifiée par le résultat, la victoire. Sauf que l'érosion du service militaire, ça commence là.
Pour des raisons d'efficacité technique, des militaires comme le futur général de Gaulle estiment que, certes, l'armée de conscription est utile, mais qu'à côté de cette armée, ou en lien avec cette armée de conscription, de service militaire personnel obligatoire, soyons précis, il faut un corps de spécialistes, ils pensent aux blindés, de spécialistes, de professionnels capables de mener une offensive tactique.
C'est-à-dire, disait-il, parce qu'il employait ces mots-là, il y a foule contre foule, mais il faut aussi avoir d'autres cordes à son arc, celles des spécialistes que vous citez. votre histoire est complète, la nôtre est cursive. Seconde guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, ça n'enrichit pas l'idée, l'image de l'armée de métier. C'est une des raisons pour lesquelles on conserve le service militaire dans la durée. Si on regarde la 4e et la 5e République, c'est comme un accordéon. 1946, un an. 1950, 18 mois. 1959, 2 ans. 1970, un an. Et dernier stade, 10 mois en 1990. Comment cela se fait-il ?
La durée du service militaire a toujours été un objet de débat. Depuis la loi, la première loi qui fonde la conscription, la loi Jourdan de 1798, dont vous parliez tout à l'heure. Dans la mesure où les combats pour l'égalité se sont focalisés sur l'égalité de la durée. On aurait pu imaginer un combat pour l'égalité de l'instruction militaire. Non, ça s'est focalisé sur la durée. Les forces voulant, les forces politiques très diverses, voulant que le service, enfin que la conscription devienne un service militaire personnel, voulait raccourcir la durée pour qu'il y ait le maximum de jeunes gens qui puissent le faire.
Oui, mais il faut tenir compte quand même des différentes compétences des recrues. Il faut tenir compte aussi des demandes de plus en plus différenciées de la part de la hiérarchie, ce qui fait qu'avant la guerre d'Algérie est créé le système des centres de sélection qui induisent des processus de différenciation. Centre de sélection, 3 jours, etc. Ici, voilà le jeune Claude Berry, Claude Langmann, qui essuie les plâtres des centres de sélection. Il est interprété par Guy Bedos et en face, il y a le commandant d'un centre, le commandant de Bonnefoy, c'est Claude Pieplu.
Vous n'êtes pas marié ? Vous n'avez pas d'enfant ? Vous n'êtes pas soutien de famille ? Vous n'êtes pas l'aîné de 9 enfants ? Vous n'avez pas perdu votre père à la guerre ? Votre mère, votre frère, votre sœur ? Personne ? Alors de quoi vous plaignez-vous ? Allô, Bertrand, ici le commandant de Bonnefoy, repos. Vous n'avez pas dans vos cas sociaux difficiles une fiche au nom de Langmann, L-A-N-G-M-A-2-N. Merci. Alors, vous êtes artiste ?
Oui, mon commandant.
Ah, vous connaissez Brigitte Bardot ?
Oui, mon commandant.
Ah. Oui ? Langmann, L-O-N-G-M-A-2-N, Claude. 40 bis rue du Faubourg Poissonnière, Sursiter, c'est vous ?
Claude, c'est moi. 40 bis rue Poissonnière, c'est moi. Sursiter, c'est moi. Mais pas Langmann. Moi, c'est Langmann. L-A-N.
Bon, apportez-moi l'affiche. Alors, comme ça, vous connaissez Brigitte Bardot ? Entrez. Repos.
Mais reste pas, mon commandant.
Effectivement, on s'est penché sur votre cas, mais avec une faute d'orthographe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous connaissez Brigitte Bardot, ça va s'arranger. Alors, sur votre fiche, là, je vois que vous souhaitiez l'armée de l'air Place Ballard, sûrement à cause du métro direct. C'est quelle station, Faubourg-Poissonnière ?
Bonne nouvelle, mon commandant.
Eh ben, c'est ça, Charenton-Ballard, c'est la ligne. Ah, pour l'armée de l'air, c'est trop tard, ils ont été appelés en mai, mais si l'artillerie anti-aérienne Porte des Lilas peut vous convenir, on peut arranger ça. Le métro n'est pas direct, bien sûr, il faut changer à République. C'est ça, ou les chasseurs alpins, c'est tout ce que je peux pour vous.
Alors, il y a les pistonnés. Les réformés, qui ne sont pas nécessairement par piston, 1967, il y a combien de réformés dans votre livre ? Je lis un quart d'une classe d'âge. Il y a, à partir de 1965, la transformation du service militaire unique en service national avec trois possibilités civiles en parallèle de la militaire, les coopérants, etc. Alors il y a un processus de différenciation, d'inégalité.
Tout à fait, qui correspond aussi au fait que le service militaire qui était remis en question après la guerre de 14 pour son efficacité est désormais remis en question pour sa légitimité et ses liens avec la citoyenneté. L'expérience de la guerre d'Algérie étant à cet égard un traumatisme. Alors en 1965, désormais, le service se décline sous le nom de national sous 4 formes.
Dont trois civils.
Cela aggrave l'inégalité.
Quel écart quand même entre les fils d'archevêques d'un côté et, je ne sais pas moi, les jeunes enfants d'immigrés de la première génération qui, dans ces allées-là, n'ont pas été nécessairement les mieux traités dans les casernes.
Dans la mesure où les formes civiles étaient accessibles essentiellement aux diplômés, même s'il y avait une démocratisation de l'enseignement supérieur.
Alors ensuite, le mouvement de professionnalisation qui est demandé depuis longtemps, vous parliez du général de Gaulle, dès l'avant-guerre, va peu à peu mûrir. Sous de Gaulle, à cause de la dissuasion nucléaire, ça joue un grand rôle?
Oui. En 1959, de Gaulle fait le choix de restreindre le nombre, enfin les effectifs de l'armée de terre et de mettre en valeur la dissuasion nucléaire. Et à partir de là, on a besoin de plus en plus de spécialistes.
Oui, mais le passage quand même ne se fait ni sous de Gaulle, bien sûr, ni sous ses successeurs immédiats, ni même sous Mitterrand, qui tient encore au service personnel en principe obligatoire, mais sous Chirac. Mais quand Chirac décide de l'armée de métier, il pense qu'il faut aussi un service civique à développer.
Alors, d'un côté, la première guerre du Golfe a accentué le désir de professionnalisation et a montré sa nécessité. De l'autre, il y a toujours cette idée qui est peut-être parfois mythifiée que le service militaire remplissait un rôle d'intégration, d'acculturation, de socialisation et que ces vertus-là, il faut les garder d'une autre façon. Ce n'est pas tout de suite au moment du vote de la loi Chirac que se pose le problème de recréer un service civil ou civique. La crise des banlieues en 2005 a accentué ce mouvement. Alors que la loi avait été votée pour la première fois dans un relatif consensus, je dis pour la première fois pour une loi de recrutement, pour une loi concernant la conscription, mais c'est après 1997, dans les années 2000, et surtout après la crise des banlieues, que l'impression de vide a fait qu'on a essayé de recréer des formes civiles et civiques.
Mais pour prendre l'opinion à contre-pied, est-ce que vous diriez, Annie Crépin, que l'intégration, elle se fait assez bien par l'armée de métiers? Il y a pas mal d'enfants d'immigrés qui apprennent des métiers, qui sont contents d'appartenir à l'armée. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse se faire par le service civique qui restera quand même peut-être l'apanage de ceux qui ont un projet, de ceux qui ont fait des études, de ceux qui ont conscience d'avoir une dette envers la République.
Il y a deux aspects. L'armée qui est devenue une armée de professionnels, de spécialistes, effectivement fournit une voie, une carrière à un certain nombre de gens qui le demandent et pour lesquels ça joue un rôle d'intégration. Le service civique, c'est autre chose. Tant qu'il est réservé, souvent pour des raisons matérielles et financières, à un petit nombre, il ne peut pas jouer le rôle d'intégration, le rôle d'intégration totale que beaucoup voudraient lui assigner.
Jamais les Français n'ont été sans contradiction devant ce sujet. Ils sont maintenant pour l'armée de métier et ils sont en même temps pour la conscription destinée au service civique. On attend quelques réponses du président de la République dans peu de jours. Je rappelle votre histoire de la conscription chez Folio Gallimard. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard et Eline Canegulesco à la préparation, à la technique Dimitri Gronoff. Votre sujet, Mathieu Vidard.
On va parler de la langue, l'organe, la langue sous toutes ses coutures, Jean, dans un instant.
Avec ses muscles et ses nombreuses papilles. Merci à vous.